Je vous invite à la prière, prions. Seigneur, tu envoies ta lumière pour éclairer notre intelligence. Ta parole pour nous nourrir et nous transformer. Ton esprit pour nous instruire et nous guider. Donne-moi, Seigneur, d'écouter ta parole avec simplicité, avec sobriété et foi, et me laisser transformer par elle maintenant. Et tout cela, je demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Françoise et moi, on est très contents d'être parmi vous ce matin. Nous avons déménagé dernièrement. On habitait donc pendant 30 ans à Pierre-Latte, là où j'ai démarré une église. Et lorsqu'on est parti, il y a à peu près 8 ans, l'église a grandi. C'est formidable. Et maintenant, nous habitons à Codognan. Et donc, on s'approche un peu de notre famille, Dave, Mika et Carré. On est très contents d'être là avec vous ce matin. Alors ce matin, le thème, c'est les causes et remèdes au découragement, sur le thème ce matin. Et on peut dire que le découragement, c'est une maladie universelle. C'est un peu comme le Covid, parce qu'on peut l'attraper sans savoir comment et pourquoi. Et tout à coup, ça peut nous arriver pour une petite chose, peut-être une pensée, peut-être un message sur votre ordinateur. Je me souviens, un jour, j'ouvre mon ordinateur et c'était écrit, je ne sais pas qui m'a envoyé ça. C'est « Monsieur, tu es méchant ». Alors, j'ai fermé mon... J'ai eu une mauvaise journée, hein. Et vous savez, une petite chose, ça peut nous mettre par terre. C'est pas vrai? Et ce que j'aimerais faire ce matin, j'aimerais vous dire, c'est rare les gens qui sont jamais découragés. Peu importe notre nationalité, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre éducation, même en tant que chrétien, ça peut nous arriver d'être découragé. Alors j'aimerais lire deux textes pour introduire cette prédication que je vais servir comme base pour ma prédication. Le premier texte, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, chapitre 5 et verset 17. Il est question ici d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est un homme de prière extraordinaire. Et nous allons lire donc dans l'Ancien Testament le récit concernant Élie qui s'est découragé, et pourtant c'est un homme qui était très puissant dans la prière, qui est utilisé par Dieu, qui a fait des miracles aussi, grâce à la prière. Et dans le chapitre 1 de 1 roi, nous lisons, Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'est assis sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors, vous avez bien retenu ce texte que je lis dans le Nouveau Testament. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était fait de la même pâte. Ça nous encourage, hein? Et pourtant, c'est un homme de prière remarquable. En temps de sécheresse, par la prière, il va faire descendre la pluie du ciel. Et à un autre moment, il va faire descendre le feu. Vous connaissez l'histoire du ciel. Et sur cette montagne, il va remporter des victoires éclatantes. Lorsqu'il y avait 450 prophètes qui étaient contre lui, il était tout seul. Et il va prier et le feu va descendre. Et Dieu va faire quelque chose de remarquable. Et puis, ça c'est dans le chapitre 18, et puis dans le chapitre 19, lorsqu'on tourne la page, cet homme, il tombe dans le découragement. Et nous allons voir à l'écran les différentes étapes du découragement, vers le découragement. Et la première étape, c'est la crainte. Il va être saisi de crainte. Et pourtant, c'est lui qui est un homme audacieux, parce qu'il va même aller vers le roi qui l'accuse de beaucoup de choses, et il va dire, roi, c'est pas ma faute, mais c'est ta faute à toi, ce qui arrive. Il était courageux. On peut dire qu'il avait peur de personne. Il était intrépide, il a peur de personne, et puis tout à coup, il est découragé. La crainte, c'est quelque chose de terrible. La crainte, ou bien on peut dire que chacun d'entre nous, on peut être saisi par la crainte, mais pour une petite chose, hein, une pensée, une mauvaise nouvelle. Et les hommes et les femmes d'aujourd'hui, on a la crainte de ce qu'on voit à la télé, c'est vrai. On peut avoir la crainte du Covid pour notre santé, la famille, c'est bien, l'environnement. Et surtout, on peut avoir la crainte et la peur de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas, les circonstances, son avenir, la mort, les puissances invisibles, tout ça, ça peut nous faire peur. On peut dire que la crainte, c'est un monstre à deux têtes qui regarde dans les directions opposées. La crainte, on peut le dire, c'est le tiraillement. Le tiraillement, c'est quelque chose qui peut nous faire souffrir. Ça peut même nous paralyser, la crainte et la peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas conduire une voiture? Levez la main. Qui n'a pas le permis, j'aimerais vous voir. Voilà, au moins un monsieur. Alors, admettons que je demande à ce monsieur, après le culte, vous allez conduire ma voiture sur l'autoroute, on va aller jusqu'à Paris. Il n'a jamais conduit, hein? Et si je suis dans la voiture avec lui, je vais avoir peur, mais lui, il va avoir encore plus peur. Hein? Ça peut même le paralyser, la peur, la crainte. C'est quelque chose de terrible. Hein? C'est le poète Montaigne qui a dit ceci, cette belle phrase, « je n'ai peur de rien, sauf la peur ». Et dans la Bible, nous lisons 350 fois, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Et j'aimerais mettre ces paroles dans votre cœur, frères et sœurs, ce matin. Ne craignez pas, parce que je suis avec toi. C'est Jésus qui le dit. On peut dire la crainte ou la peur, ce sont les premières marches vers le donjon du découragement. La crainte ou la peur sont des voleurs de nos énergies. Elles sont incompatibles donc avec la foi. Vous connaissez ce texte dans le psaume 46, versets 2 à 4. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, s'écume, se soulève jusqu'à faire trembler la terre. Je suis sans crainte. Les craintes du chrétien proviennent souvent, surtout, d'un manque de réflexion. Il regarde à lui-même, il écoute ses émotions et il peut se laisser emporté par son imagination, et il oublie sa position en Christ, accepté, aimé, pardonné et équipé par la puissance du Saint-Esprit. Et même dans le Nouveau Testament, nous rencontrons un personnage qui était craintif, c'était Timothée. Et l'apôtre Paul va prendre sa plume et va lui dire, ranime, ravive la flamme qui est en toi, car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant. Et Dieu, souvent, il va dire à ses serviteurs, il dit à chacun d'entre nous ce matin, « Ne crains point, car je suis ton bouclier. » Il a dit à Abraham, « Ne crains pas, parce que je suis avec toi. » Ne craignez pas, l'Éternel est avec nous. C'est Dieu qui l'a dit à Moïse et Aaron à plusieurs fois. Et Jésus dit à ses disciples 9 fois, « Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. » Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de se laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. » Après donc la crainte, nous avons la fuite. Et dans le texte que nous avons lu, ce que nous voyons, il va être saisi des craintes, il va faire quelque chose, c'est dans le verset 3 du chapitre 19. « Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » C'est la fuite. Et c'est très intéressant de noter où il va aller. Il va aller à Beersheba. Et Beersheba est un lieu historique de bénédiction, un lieu connu pour les interventions de Dieu. C'est là où Dieu a rencontré Abraham. C'est là où Abraham a fait la paix avec ses ennemis. Alors, ce qui est très intéressant de remarquer, c'est les archéologues anglais qui nous disent que à cette ville, Beersheba, qui veut dire les 7 puits, il y avait des puits qui étaient très grands et très profonds. Ils faisaient 12 mètres de circonférence et certains 15 mètres de profondeur. C'était un lieu de rafraîchissement. Et ce qui est étonnant, au lieu de s'arrêter là, Élie, il va aller dans le désert. Il passe à côté. Il ne s'arrête pas. Quel dommage. C'est un lieu de rafraîchissement, un lieu de bénédiction. Mais il ne s'arrête pas. Et là, il y a une application pour nous aussi. Quel est le lieu de bénédiction pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est dans l'église locale. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans un temple, mais c'est parce que 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus. C'est pas dans un bâtiment. L'Esprit de Dieu, il habite dans nos cœurs. Et c'est pourquoi il ne faut pas éviter et fuir l'Église. Et il y a quelques semaines, Françoise et moi, on est allés rendre visite à des personnes et j'étais envahi de tristesse. C'était un dimanche matin, je suis allé chez eux. Et vous savez quoi? C'était pas pendant la période de Covid, j'aimerais préciser, et ces gens étaient devant leur télé. Et puis nous, on ne va pas à l'église, on regarde quelque chose d'ailleurs, parce que c'est meilleur. On ne va plus à l'église. Et même leurs enfants, ils n'allaient plus à l'église. Et nous ne pouvons pas cautionner cela. Nous avons besoin de l'église. Nous avons besoin les uns des autres. Et la Bible ne cautionne pas les chrétiens sur les terres. Nous avons besoin de contacts, de communion, de complémentarité. Nous avons besoin d'être ensemble, de pleurer ensemble, de travailler ensemble, de rire ensemble. C'est ça l'Église. L'Ecclésia, c'est l'Église, des gens imparfaits comme toi et moi, ensemble, en route vers une nouvelle destination. C'est comme les oiseaux migrateurs qui sont ensemble vers une nouvelle destination. Et il y a une joie aussi de retrouver les chrétiens. Et c'est le plan de Dieu pour adorer ensemble, pour louer ensemble, pour annoncer la lumière dans les ténèbres ensemble et pour agrandir ensemble, apprendre les uns des autres. Non à la solitude. Et sur le troisième point, parce qu'après la fuite, il va se séparer. Il va se séparer, je ne sais pas si vous remarquez dans le texte, il va se séparer de son serviteur. Il y avait quelqu'un avec lui, il va se séparer de lui. La séparation, on peut dire que c'est un péché aussi, de se séparer de l'Église, de se séparer de la parole, de se séparer de Dieu. La fuite déclenche la séparation avec son serviteur. Et puis la solitude déclenche les attitudes irrationnelles, le découragement. Ça m'a fait plaisir que Monique a... C'est Monique, votre nom ? A lu le texte, donc, de ne pas abandonner notre assemblée. Ne prenons pas l'habitude de manquer nos réunions. Soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. C'était tiré donc le texte d'Hébreux ce matin. Donc, il y a la crainte, la fuite, la séparation. Et qu'est-ce qui se passe ? Un autre ami, Élie, qui était un homme remarquable, et maintenant, il est découragé. Ses piles sont usées, ses pneus sont à plat. Il est découragé. Il est au bout du rouleau. Il perd les pédales. Il ne voit plus clair. Il est dans le brouillard. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est assez. Et dans notre langage à nous, il dit : j'en ai ras-le-bol, je ne peux plus. Il dévoile son attitude intérieure. En d'autres mots, prends mon âme, il le dit à Dieu. C'est vraiment terrible. Il ne voit plus clair. Il n'y a plus de dialogue avec les autres. Il n'y a plus de dialogue avec les frères et sœurs. Il est seul. Et il se trompe. Parce que comme nous allons voir dans le texte, il va dire que des bêtises. Et vous savez, lorsqu'on s'éloigne des autres, on peut avoir une perspective qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte. Et nous avons besoin les uns des autres. Et qu'est-ce que nous voyons par la suite ? Il y a donc la crainte, la fuite, la séparation, la solitude. Et puis après, il va se comparer aux autres. Et là, je vous donne la clé pour vous encourager tout de suite. Hein. Commencez à vous décourager. Hein. Par exemple, Michael, qui fait partie de notre famille, c'est un professionnel des ordinateurs. Il sait tout faire. Il peut tout faire avec l'ordinateur, sauf le café, hein, je pense. Hein. Il sait tout faire avec cette ordinateur. Et je suis toujours content de le voir. Hein. Et j'aimerais avoir les dons que lui, là, mais je ne les ai pas. Et il y a notre sœur aussi qui a dirigé les chants. Je n'ai pas ces dons-là. Et si je commence à comparer à chacun, qu'est-ce qui se passe ? Je me décourage. Alors arrêtons-nous de nous décourager et de nous comparer les uns avec les autres. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est faux ce qu'il dit. Parce qu'Élie, il a fait ce que les autres prophètes n'ont jamais fait. Il se trompe. Il dit des bêtises. Et maintenant, notre ami Élie, il a un drôle de tête. Il est déprimé, il est seul, il est négatif. Comme on dit dans notre langage, il broie du noir, il est abattu, il est affligé. Il ne contrôle plus rien, ni ses pensées, ni ses sentiments, ni ses paroles. Il a perdu sa joie. Et derrière tout cela, il y a l'ennemi de notre âme qui veut nous décourager. Il ne faut jamais oublier que nous sommes dans un combat. Et le diable, il veut nous déprimer. Il vise à déprimer le peuple de Dieu, de ôter leur joie, leur assurance. Il veut nous faire douter. Mais non, celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et par Jésus, nous avons la victoire. Il y a un médecin qui a écrit un livre intitulé, et c'est un peu le thème que je donnais à ma prédication, donc la dépression, ses causes et remèdes. Il a écrit un livre remarquable sur ce sujet. Il dit ceci: le chrétien triste, malheureux, offre une pauvre image et publicité de la foi biblique. Par contre, le chrétien joyeux, exubérant de premier, la joie exubérante est un puissant encouragement pour la croissance de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent, les gens, aujourd'hui ? Ils cherchent la paix, la joie, l'amour. Et nous avons tout cela dans l'Église. Le grand besoin de l'heure est le meilleur antidote à une religion superficielle et fausse. Réside dans le réveil d'une église joyeuse qui vit et rayonne l'évangile. Et prions pour que nous soyons des chrétiens joyeux, pour que nous soyons une église joyeuse. Et c'est ça qui va attirer les autres. Donc, il va se comparer aux autres et puis ça termine par le découragement. Regardez, à droite, il y a un drôle de tête maintenant, hein. notre ami Élie. Mais il va s'en sortir, et c'est la partie plus importante. Nous allons voir les remèdes au découragement, et je vais vous montrer les étapes vers l'encouragement. Et non seulement il va s'encourager, mais il va reprendre le travail, il va encourager les autres. Il va former les autres à encourager. Et nous avons le premier remède. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la première chose qu'il a fait. La première chose qu'il a fait qui était intelligent. Verset 5, il se coucha et s'endormit. Il va faire une bonne sieste. Ça lui a fait du bien. Parce que vous savez, parfois le manque de sommeil peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique, psychologique et spirituelle. Le manque de sommeil, on est énervé, on est irritable, on est vulnérable. Et parfois ma femme me dit, écoute, tu es fatigué, va te coucher, va faire une bonne sieste. Et vous savez quoi? Je vais le faire. Et ça va me faire du bien. Et ça va faire du bien à tout le monde. Hein? Attention au surmenage, à l'activisme de vouloir trop faire. On peut dire que pour Élie, le sommeil était le premier pas vers le rétablissement. J'aime bien ce texte d'Isaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, frères et sœurs, reposez-vous. Deuxième étape vers l'encouragement. Non seulement il va se reposer, mais il va se laisser toucher par Dieu. Dieu va envoyer un ange, il va le toucher. Ça, c'est formidable. De se laisser toucher par le doigt de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a les yeux. Il a un doigt aussi. Il veut nous toucher chacun ce matin. Peut-être nous sommes découragés. Eh bien, Dieu, il veut aussi semer l'encouragement dans notre cœur. Et Élie, il va reconnaître la main de Dieu. Et non seulement, il va accepter aussi la provision de Dieu. Dieu a tenu compte de ses besoins physiques, et avant de le traiter, les problèmes spirituels, Dieu, il va s'approcher de manière précise, et puis il va lui parler. Dieu s'approche, Dieu a une approche globale pour notre corps, notre âme et notre esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Troisièmement, il va se laisser nourrir par Dieu. Dieu, il va lui donner le sommeil et il va lui donner donc la nourriture. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. C'était quoi comme gâteau? Est-ce que c'était une millefeuille? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une tarte aux pommes? Je ne sais pas. Dieu, il savait ce qui était bon pour lui. Et peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce que Dieu a à me dire ce matin? Eh bien, Dieu, il sait ce qui est bon pour vous. Dieu vous a conduit ici ce matin, peut-être pour entendre cette prédication. Dieu, il veut vous nourrir votre âme. Et Élie, il n'a pas contesté ce que Dieu lui a donné. Il a reconnu la bonté de Dieu, la provision de Dieu. Il a reconnu qu'en dehors de Dieu, il ne pouvait pas vivre. Il va se laisser réveillé par Dieu, se nourrir par Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait après? Regardez la prochaine étape. Il va se reposer de nouveau. Il va faire une deuxième sieste. Eh bien, ça m'arrive aussi parfois de faire une sieste. Je me lève et puis je vais disparaître. Ma femme me dit, tu es? Je dis, mais je suis retourné au lit encore parce que ma première sieste n'est pas terminée. Et il va se recoucher. Il va se reposer en Dieu. C'est un sommeil réparateur. Il va donc avoir une alimentation tonifiante concoctée par l'ange de Dieu. Une ordonnance faite par l'ange de Dieu. Il savait ce dont il avait besoin. Et ses problèmes ne sont pas réglés. Sur le texte qui le dit, parce que sa vie, elle est menacée. Mais Dieu ne l'accuse pas, il ne l'offense pas. Dieu ne dit pas, mais ta prière n'était pas très belle ni très orthodoxe. Ou théologiquement correct, au contraire, l'ange de l'Éternel exprime la bienveillance, la grâce et la bonté. Lève-toi, mange, prends des forces car le chemin est trop long pour toi. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé attentivement ce texte, si je regardais attentivement, mais il devait faire donc un trajet qui faisait à peu près 450 kilomètres. Ça fait de Valence jusqu'à Paris, à peu près. Hein. Et il est dit dans le texte, enfin, il est dit que c'était 40 jours de marche. Mais c'est vraiment incroyable. Et lorsque je regardais de plus près, je vois que Moïse, il a fait le même trajet en 11 jours. Tiens, c'est curieux, ça. Et pourquoi est-ce qu'il dit 40 jours de marche ici? Là, il y a quelque chose d'intéressant. Dieu, il n'est pas pressé. Il va nous laisser le temps pour faire des pauses, pour s'arrêter, pour contempler la nature, pour se restaurer. C'est une marche au ralenti, sans pression. C'est une marche avec des aires de repos pour marcher tranquillement dans la prière. Ce n'est pas une course contre la montre. Et Dieu, il tient compte de son état. Et vous avez peut-être remarqué que dans les psaumes, il y a, j'ai compté, il y a dans les psaumes 71 fois, c'est marqué dans le texte, les pauses. Vous avez remarqué cela? Et j'ai lu un livre une fois, c'est un pasteur qui a demandé à quelqu'un de lire le texte. Il a sauté les pauses, il ne s'est pas arrêté. Le pasteur dit, maintenant il faut refaire la lecture parce que tu as mal lu. Il dit, pourquoi? Parce que tu n'es pas arrêté. Il faut savoir s'arrêter entre les lignes. Et vous savez, il est important aussi pour nous de savoir s'arrêter. Et même pour ceux d'entre nous qui sont musiciens, nous savons que la musique sans des pauses, c'est que du bruit. Et les grands musiciens, que ce soit Chopin, que ce soit Mozart, que ce soit Bach, que ce soit Beethoven ou autre, dans le pathétique, c'est un morceau de musique que je connais bien, je sais jouer au moins le premier mouvement, qu'est-ce qui se passe? Ça commence de manière dramatique. Dun, 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 dun. Ça s'arrête. Puis ça reprend. Et dans la musique, il y a des pauses. Et dans notre journée, il est important de faire des pauses. 3 pauses par jour. 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi et 5 minutes le soir pour regarder à Dieu, pour lire la Bible, pour prier, pour s'arrêter. Donc, il va se reposer. Et puis, qu'est-ce que nous voyons? Il va reprendre le dialogue avec Dieu. Et dans cette prière d'Élie, nous pouvons apprendre que Élie, il va prier à Dieu et c'est une prière qui n'est pas très orthodoxe parce que si vous regardez attentivement le texte, et il va dire dans le verset 10 une prière et puis dans le verset 14, il va dire exactement la même chose. Il radote. Et dans cette prière, Dieu, il va lui poser une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Et Élie, il répond à côté de la plaque. Il dit des bêtises. Il ne va pas lire toute sa prière. Il dit, voilà tout ce que je fais pour toi. Ce n'est pas moi le problème. Et Dieu lui pose une question. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais il ne répond pas. Donc, Dieu, il répond à la question. Dieu, il repose la question. Il donne une deuxième chance pour reformuler sa réponse. Mais encore une fois, il dit la même chose. L'autre jour, dans mon bureau, il y avait des étagères qui commençaient à tomber et je suis allé à ma cave pour chercher un marteau, un tournevis et des vis. Et quand je suis allé dans ma cave, j'ai gratté la tête et je dis, pourquoi je suis ici? Je remontais à mon bureau et je voyais les étagères, je redescendu une deuxième fois, je cherchais un marteau. Je remonte, il dit, ah, j'ai oublié quelque chose. Je redescends. Je dis, mais qu'est-ce que... Et puis, ça vous arrive aussi d'aller quelque part et puis vous oubliez pourquoi vous êtes là. Eh bien, ici, ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu, il va lui rappeler d'où il vient. Il est important aussi pour nous de savoir d'où on vient parce que souvent, nous sommes perdus théologiquement. Nous sommes tristes parce que nous avons oublié tout ce que Dieu, il nous donne. Et il est important pour nous aussi de revenir sur nos points de repère fondamentaux, les piliers de la foi, l'assurance de notre salut, la justification par la foi, la sanctification, le secret d'une vie victorieuse.
Tout ça, c'est très important, de dialogue avec Dieu et de tout dire à Dieu. Et il y a une puissance libératrice de pouvoir dire tout à Dieu. Alors, j'arrive vers ma conclusion, mais avant d'arriver vers ma conclusion, j'aimerais dire ceci, c'est non seulement Dieu, il va parler, mais il va se manifester. Et nous allons assister ici à un spectacle son et lumière parce que Dieu, il va intervenir. Il va utiliser le vent, le feu et le tremblement de terre. Et Dieu lui dit, sors de là. Il était dans une cave, une caverne. Et Dieu lui dit, sors de là, sors du noir. Il demande de faire quelque chose de très simple, de se déplacer, de venir à la lumière et rencontrer le Dieu de lumière. Enlève tes lunettes de soleil et rencontrer le Dieu qui est vivant, le Dieu de lumière. Et Élie va sortir, il va avoir une rencontre incroyable avec cette démonstration de la puissance de Dieu. Le vent violent qui déchire les montagnes et brise le rocher, le tremblement de terre, le feu, c'est un spectacle grandiose. Mais la présence de Dieu et la puissance de Dieu n'est pas là-dedans. C'est un bruit fracassant, un tremblement de terre. Mais Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et puis Dieu parle à Élie dans un murmure doux et léger. La petite voix. C'est un son que l'on perçoit uniquement en absence de tout autre bruit. Un murmure. Une petite phrase pour toi. Je me souviens quand je fréquentais ma femme, parfois on était dans des réunions, au lieu d'écouter le prédicateur, parfois je disais petites choses à ma femme à côté, enfin, c'était pas encore ma femme. Hein. Parfois elle me disait petites choses, elle me chuchotait quelque chose dans l'oreille. Oh, ça me faisait bondir mon cœur. Cette petite voix, elle est douce, elle est calme, elle est fine. Rien n'est plus parlant, plus efficace que ce murmure doux et léger. La voix de Dieu ici n'est pas nourrie par le spectaculaire, mais par cette petite voix. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ce matin? Alors, j'aimerais vous dire ceci, il y a Paul Tournier, il a écrit dans un livre, c'est un psychologue, il y a dans le silence, meublé avec la présence et la parole de Dieu, une force, une puissance qui nous aide à descendre au plus profond de nous-mêmes. Cette petite voix, prenez du temps pour écouter à travers la parole de Dieu, cette petite voix de Dieu. Et puis sixièmement, il va se mettre en route, il va trouver son serviteur et Dieu lui dit, reprends ton chemin. Notez bien, ce n'est pas reprendre le chemin, mais ton chemin. Chacun a un chemin. Chacun a quelque chose à faire dans l'Église. Se mettre en route, non à la passivité, non à l'introspection, non au nombrilisme, mais de se mettre en route avec les autres. C'est important. Il va reprendre en route. Il va reprendre son serviteur. Il va se mettre au travail. Verset 16, il va oindre, il va bénir les autres. Et ça va être sa guérison, c'est formidable. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que c'est l'autre qui va prendre le relais. Il va se mettre en route, mais c'est l'autre qui va se mettre au travail aussi. Il va passer le relais à la génération future. Ça, c'est formidable. Et donc, c'est Jéhu qui va reprendre le relève pour transmettre à la génération future, donc toutes les bénédictions de Dieu. Donc j'aimerais conclure. Comme Élie, on peut avoir le sentiment d'être seul, c'est faux. Vous n'êtes pas seul. Parce que Dieu vous a placé dans son Église avec la puissance de son Esprit. Dieu, il est là, il est vivant. Et ses promesses sont immuables. Non à la crainte. Oui à la confiance. Non à la fuite. Oui à la confrontation, à la réalité avec Dieu. Non à la séparation, oui à la communion. Non à la comparaison, oui à la complémentarité.
non à la solitude, oui à la communauté, non au nombrilisme et oui à la transmission. Comment ça c'est possible? Se reposer en Dieu, se laisser toucher par Dieu, retrouver la joie dans les dialogues avec Dieu et se mettre en route avec les sœurs et frères pour accomplir le travail que Dieu nous demande à faire. Et puis aussi de passer le relais aux autres pour que nous puissions annoncer l'évangile et faire reculer les puissances des ténèbres. Élie était un homme de la même nature que nous. Prions. Prenons quelques instants pour rester dans le silence, pour écouter cette petite voix de Dieu qui nous parle. Peut-être on a eu des mauvaises pensées, des mauvaises paroles cette semaine, on peut demander pardon à Dieu maintenant. Peut-être nous sommes éloignés de l'Église, peut-être nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Nous avons laissé de côté notre Bible, on peut demander pardon et revenir à Dieu maintenant. Demander à son esprit de nous toucher, de nous remplir et de nous redonner une nouvelle joie et aussi un nouveau zèle. Prions. Père Céleste, je te demande de faire taire tous les bruits qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, qui m'empêchent de t'entendre, d'entendre cette petite voix douce, fine, qui console et qui soulage et qui rafraîchit et qui me fait un bien énorme. Parle-moi, Seigneur, maintenant. Maintenant, je veux écouter ta voix. Je veux accueillir ta parole et obéir à cette parole. Aide-moi, Seigneur, à serrer ta parole sur mon cœur et la mettre en pratique. Et tout cela, je demande au nom de Jésus, mon Seigneur, et mon Sauveur. Amen.